Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Elisabeth Chabuel. Bonjour.
Bonjour.
Elisabeth, c'est un plaisir de vous recevoir au studio de Erdiwa et vous êtes là pour nous présenter votre dernier ouvrage, un poème, Je suis le mur. C'est aux éditions Shane et vous serez présente à la librairie Mosaïque ce samedi 7 mars à 18h avec Benoît Ress qui est co-directeur de l'édition Shane sur lequel l'ouvrage est édité. Alors Elisabeth, cela, ça sera dans le cadre du printemps des poètes. Pour vous, Elisabeth, vous êtes poète. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'expression poétique ?
Alors, ce que j'ai commencé à écrire, c'était pas de la poésie. C'était plutôt des récits, même peut-être des récits un petit peu fantastiques. Moi, j'ai des contes. J'aime beaucoup ce qu'on appelle le réalisme magique. Et quand j'ai commencé à écrire, je lisais beaucoup ces sortes de petits récits un peu magiques, un peu absurdes. Moi, j'aime beaucoup Kafka et aussi Gogol, l'écrivain russe Nikolai Gogol. Et ces deux auteurs m'ont beaucoup nourri. Et puis aussi, en fait, l'auteur vraiment primordial qui m'a le plus nourri et qui me nourrit encore, c'est Samuel Beckett. Parce qu'il a une pureté dans sa langue que je lui envie beaucoup. Et c'est un peu lui qui me donne envie de ciseler mes textes très fort. Enfin, c'est ce que j'essaye, mais c'est pas réussi à tous les coups et c'est difficile. Et puis sinon, vraiment la poésie, je suis venue à la poésie parce que la poésie offre la possibilité de dire les choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas dire autrement. C'est-à-dire que on travaille sur... en fait, sur la forme de la langue. Et parfois, l'émotion ou la difficulté de dire ne peut pas se dire avec des phrases narratives classiques. Et en fait, les mots peuvent se bousculer, s'entrechoquer et balbutier. Et la poésie, elle permet de dire ça, de d'écrire ça, de... en fait, de restituer des émotions trop fortes pour être dites. Et en fait, mon premier ancrage sur vraiment le plus fort, parce que jusque-là, juste avant, j'écrivais de temps en temps des petites choses, mais surtout, je faisais beaucoup de traductions. Mais c'est en 2004 où vraiment j'ai ressenti la nécessité de faire un travail sur en fait l'histoire de ma mère, sur un événement qui l'a touchée pendant son enfance, qui est en fait l'attaque de l'armée allemande sur le village de Vassieux, puisqu'elle avait 8 ans et avec ses parents, elle a dû quitter sa maison. Parce que les soldats étaient en train de tout massacrer, tout brûler. Et ça a duré plusieurs semaines. Ils étaient obligés de se cacher. Et ça a laissé des marques, non seulement chez elles, mais aussi, je pense, que chez nous, ses enfants, chez moi, et peut-être chez mes frères et sœurs. Et peut-être aussi, je ne sais pas, on ne peut pas jamais être sûr, mais peut-être aussi chez mes enfants à moi. Et en fait, l'écriture, enfin moi quand j'ai commencé ça, je pensais pas à tout ça, mais je pense que l'écriture c'est aussi un moyen de stopper cette transmission un petit peu difficile, je dirais pas toxique, mais cette transmission de choses qu'on a vécues. En fait, quelque part, il faut arrêter à un moment et pas continuer, pas la laisser se transmettre indéfiniment. Et moi, j'ai eu le sentiment d'écrire un petit peu pour guérir, comme pour guérir le futur. Enfin, c'est bien prétentieux, mais voilà.
Que la pensée soit notifiée sur papier. Pour vous, c'est aussi un aboutissement peut-être qui permette de se poser, de se reposer ensuite.
Pour moi, l'aboutissement, c'est pas le papier. L'aboutissement, ça vient le papier, ça vient après. Mais l'aboutissement, c'est de restituer, poser les mots. C'est que trouver en fait un langage qui va être capable de restituer cette violence, en fait, ces émotions. Parce que je crois quelque part que c'est inscrit dans nos corps, tout ça. Et que la poésie ou l'écriture, elle est directement liée au corps. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est directement lié au corps. Et parfois, quand j'écris, j'ai presque l'impression de ne pas être là. C'est comme si... mes doigts passaient directement de mon corps au clavier ou au papier, au stylo, au papier.
J'arrive sur cet ouvrage, donc Je suis le mur. C'est un personnage, en somme, une autobiographie, un autoportrait, peut-être.
Non, c'est... On ne peut pas dire que ce soit un autoportrait, mais bien sûr, je suis présente dans toutes les figures qui sont dans le mur, dans Je suis le mur. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, le sujet qui parle, c'est un mur. Donc, un mur, c'est pas censé parler, mais là, j'essaye de lui donner voix. Et évidemment, dans ce que dit le mur, c'est ma voix qui est là, donc il transmet des informations, des sentiments, des sensations que j'éprouve moi. Mais il y a aussi, en fait, il y a trois figures essentielles. Il y a le mur, il y a cette entité à qui il s'adresse, qui nous représente nous, en fait, les hommes, les femmes. Donc cette entité, je l'appelle choses, machines et personnes, parce que maintenant, dans l'entité humaine, en fait, on est constitué aussi de choses connectées, de machines. Et là, cette entité, elle est à la fois les choses, les machines et les personnes qui sont nous, qui sont devenues nous. Et puis la troisième entité qui fait basculer, qui est un point de bascule dans le livre, c'est une sorte de punk à chien, enfin un homme qui promène son chien le long du mur. Et le chien, il passe, donc au pied du mur, il y a des survivants d'une guerre ou de plusieurs guerres. Et ils sont... y en a qui sont plus ou moins amochés, quoi. Et il y a des enfants, il y a des hommes, des femmes, il y a des nourrissons. Et le chien passe à côté de tous ces gens et il les regarde, il les renifle. Et l'homme, il trouve qu'il y a quelque chose un petit peu, peut-être d'un peu indécent à ce que son chien il fasse ça. Et donc... Il le rappelle avec un peu de violence. Et puis, en fait, il trouve parmi toutes ces personnes qui sont au pied du mur, il se penche sur un petit crâne et il le prend dans ses bras et il lui chante il chante une ritournelle. Il a beaucoup d'empathie, en fait, pour cet enfant, alors que c'est un homme un peu rustre, dans mon idée. Et, bon, et c'est aussi une représentation de moi-même. Et en fait, les choses, machines et personnes qui sont connectées et qui sont en permanence connectées, le voient et voient cet homme qui fait ça. Et du coup, alors qu'elles ne voyaient rien de, et elles n'entendaient rien de tout ce que disait le mur qui cherche depuis le début du livre à les alerter sur ce qui se passe, elles n'entendaient rien. Et là, en voyant l'homme et son chien, elles changent totalement d'attitude et là, elles se mettent à parler. Voilà.
Ce mur, ou le mur du moins, c'est un objet qui permet de nous abriter par le biais de construction de maisons. Et puis, petit à petit, il est détourné aussi pour protéger, limiter des superficies, des territoires. Et là, c'est un mur qui oppose deux mondes aussi, qui se situe entre deux mondes.
Alors, le mur... ce qu'il dit lui-même, c'est qu'il est là pour clore un hémisphère. C'est-à-dire qu'il est là pour fermer l'hémisphère nord, le monde occidental. Et on lui a mis donc pour... c'est pas du tout un abri. Enfin, si, c'est un abri, si on peut voir ça de... d'une façon ou d'une autre, mais c'est...
J'opérais dans une transition, hein. C'est-à-dire qu'initialement, le mur, ça permettait de nous mettre à l'abri, hein.
Oui.
Et petit à petit, il est détourné de cette fonction.
Oui, parce qu'il est là plutôt pour maintenir un ordre qui lui est imposé, puisque là, je parle des consolidateurs qui sont là pour préserver notre monde. Et qui dresse sur lui, qui met des grilles et tout un dispositif sécuritaire sur lui. Et ce dispositif devient de plus en plus douloureux pour le mur, et puis il prend conscience que, en fait, lui, de témoin de tout ce qui se passe, il devient complice. D'un côté, il est victime de ces consolidateurs qui veulent le consolider de force, puisqu'il y a des soldats qui marchent le long de son dos, et il y a tout ce dispositif qu'on connaît, quoi. Il y a même des armes létales. Au pied du mur, il y a ces survivants qui sont pieds nus face aux soldats, qui cherchent à le franchir, mais ils n'ont pas d'équipement, ils sont... à moitié presque nus, nus au sens ils sont dépourvus de tout, quoi, ils sont totalement inoffensifs, si ce n'est qu'ils sont nombreux et que le nombre nous fait peur. Et donc ce mur, il prend conscience il a une sorte de sentiment de culpabilité parce qu'il peut pas se dérober, et au bout d'un moment il prend conscience que il va falloir qu'il trouve le moyen de laisser passer ces gens, quoi, qu'il peut plus continuer comme ça.
Avant de continuer, je vous inviterai bien, si vous le voulez bien, procéder à quelques extraits de lecture de ce « Je suis le mur ».
Bah oui, avec plaisir, je vais regarder ce que... Moi, je vais faire trois petites lectures, peut-être « La voix du mur », et ensuite « La voix des choses, machines et personnes », et puis... peut-être le petit récit sur ce chien, sur l'homme et le chien. Je suis le mur. Je leur dis, mon état se dégrade. Mes pierres se déchaussent, tombent et roulent à mon pied. Je leur dis, le mur est aveugle, mais le mur voit, comme vous qui avez des yeux. Je leur dis, je vois. Pierre après pierre, je me les délite. Je leur dis, je crains de ne pouvoir tenir sous le poids des survivants, tous ceux qui se massent à mon pied et tentent de me franchir. Je leur dis, le mur a des oreilles, je vous écoute. Elles se taisent. Je ne bouge pas. Mon dos parcourt la ligne à l'horizontale, tandis que mes verticales saillent vers le ciel. J'jalonne l'espace terrestre et vrille le temps. Je suis le mur, je leur dis. Tel un serpent immobile, je fais front au sud pour protéger le nord. Mon rôle est de clore un hémisphère jusqu'à épuisement. Degré ou non, je leur dis, entre démantèlement et consolidation immobile j'ondule, de fuseau horaire en fuseau horaire, tel un long serpent qui cherche de la bouche sa queue. Je porte la voix carpente dans un sens et puis dans l'autre, face au sud, les gardes qui guettent à mesure qu'arrive la foule des survivants. Et je vais peut-être ensuite vous lire la voix de... Oui, parce que il faut que je dise que, en fait, dans la poésie que j'écris, c'est souvent des voix, en fait. C'est des voix qui sont retranscrites. Et finalement, il y a peu de narration impersonnelle. Je passe souvent par des voix. Et ces voix, c'est aussi en quelque sorte ma voix, mais de passer par des figures ou des personnages me permet de dire les choses peut-être plus facilement que si je parlais en mon nom, au nom de l'autrice que je suis. Elles disent: l'horizon est dans le cadre, on y partage l'intime. Elles disent, on a choisi l'infime dedans. On a des images, on a des noms, on est des choses, des machines, des personnes. On s'expose, on se voit et on voit. On vit pour se regarder vivre, on se regarde vivre une cruelle époque. On a énormément d'amis. On espère que ça va durer. On en profite. On scrolle, on like, on s'aime. Elles disent, mais on se sent seul. On se cherche. On cherche à se reconnaître. On se voit. Et on voit la foule des survivants de la terre et on voit les morts. Sur la plage, on voit les corps. On voit les épaves, les sacs et les chaussures. On voit les manteaux et les lacets. On voit les peignes. On voit les peluches échouées, gonflées comme des outres. On voit les tétines et les biberons. On voit les imperméables. On voit les séparations, les pertes, les chutes et les dérives. On voit les vagues, les disparitions, les abîmes. On voit les gilets de sauvetage rouges. Les gilets factices, on voit les canaux trop petits et trop pleins, les embarcations éculées, les GPS tombés en panne, les pirogues désorientées, les voleurs de moteurs et les négociants en survie. On voit les morceaux de plastique brisés par les écueils, on voit les enfants régurgités par la mer, on voit le sable et le sel, les camions frigorifiques, les champs de cercueils, le creusement des tombes, on voit les épitaphes vides. Elles disent, on voit, mais que faire? Que faire? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Blanche comme neige, on se gangrène.
le mur, du moins ce qui est écrit dans ce livre, se nourrit de votre sensibilité par rapport à ce monde qui vous entoure. De quoi vous êtes-vous nourri pour trouver aussi cette pensée, cette parole, cette voix qui parle? De quoi s'est-elle nourrie pour être entendue et écoutée?
Là, j'ai beaucoup été nourrie par l'actualité. En fait, le livre, j'ai commencé les premières notes que j'ai prises pour écrire ce livre, sans savoir encore comment, quelle forme aurait le livre. C'était, ça remonte à pas mal de temps, puisque c'était en 2015, quand au moment de la guerre, du début de la guerre en Syrie, et que il y a eu énormément de, en fait, de réfugiés, de migrants qui ont pris le, qui ils n'arrivaient plus à prendre la mer parce que c'était devenu trop compliqué, et donc ils ont finalement passé par la Turquie, traversé un fleuve très réputé pour sa difficulté qui sépare en fait la Turquie de la Grèce, et ils sont remontés par les Balkans. Et en fait, il y a eu toute une procession de personnes comme ça qui ont remonté les Balkans. Et cette route, on a appelé ça la route des Balkans. Et tous ces gens, en fait, ils souhaitaient rejoindre l'Allemagne ou les pays plus au nord. Et moi, cette route des Balkans, ça m'a beaucoup interpellée, parce que les Balkans, je suis très sensible à ce qui se passe dans les Balkans, parce que je suis ce qui se passe en Albanie, au Kosovo, en Serbie. Et là, en fait, il y a eu une sorte de mur qui a été mis en place entre la Serbie et la Hongrie. Et c'est cet endroit-là qui m'a inspiré cette idée de mur. Et pour moi, c'est très symbolique, ce lieu, parce que c'est une frontière qui est perpendiculaire à l'ancien mur, l'ancien rideau de fer. Et donc moi, j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé aussi autour de la chute du mur de Berlin, l'ouverture, la disparition du rideau de fer. Et qu'aujourd'hui, on reconstruise un mur là, perpendiculaire à ce mur qui était tombé quelques temps avant, ça m'a beaucoup interrogée. Et puis bon, maintenant, c'est devenu une banalité avec tout ce qui se passe maintenant en Ukraine. C'est vraiment... Enfin, on est beaucoup revenu en arrière. Mais moi, quand j'ai cette idée, c'est cette route des Balkans qui m'a inspirée.
Une image m'est apparue aussi, c'est par rapport au plateau du Vercors, avec sa constitution très verticale, ses apics. Est-ce qu'il y a aussi cet aspect de ce mur dans ce paysage, quand on arrive dans la Drôme ou par l'Isère, ce sont des cloisons de hautes parois. Donc est-ce qu'il y a aussi cet aspect de ce mur dans lequel vous vous êtes inspiré pour votre premier recueil, 744, et par la suite d'autres textes sur ces épisodes du Vercors?
Alors oui, on dit que le massif du Vercors, c'est comme une sorte de citadelle, puisque c'est entouré tout le tour de murs, et que en fait l'armée allemande, pour réussir à rentrer vraiment sur le Vercors, ils y sont allés par les airs. Et en même temps qu'ils avaient des armées qui entraient par tout autour, par Saint-Nizier, par de partout, et ils sont rentrés aussi par les airs. Et c'est vrai que le Vercors est une sorte de citadelle, mais aujourd'hui, c'est un lieu ouvert, quoi. c'est un lieu qu'on traverse et que moi je traverse et que j'arpente avec beaucoup de plaisir parce que, en fait, comme j'habite à la fois d'un côté et de l'autre, je le traverse régulièrement en voiture, je le parcours à pied. Moi, mon lieu, vraiment mon lieu fétiche dans le Vercors, c'est Fondurle. C'est un lieu absolument paradisiaque. Et c'est un lieu qui me ressource beaucoup. Et j'essaye d'y aller régulièrement dans toutes les saisons. Et en fait, l'hiver, c'est très beau parce que on voit, il y a des falaises tout autour et on est au-dessus de tout, c'est magnifique.
Et puis il y aura cette lecture avec la présence de Benoît Ress qui est le co-directeur de l'édition Shane. Vous allez proposer tous les deux un moment pour le spectateur qui viendront à cette librairie Mosaïque ce samedi 7 mars. Vous allez procéder à quelques lectures, j'imagine, mais lui-même, Benoît Ress, écrit.
Oui, c'est un. Il est co-directeur de Chaîne Éditeur, mais il est aussi poète. Et en fait, je suis vraiment très très contente d'avoir été acceptée, que mon Je suis le mur ait été accepté par Chaîne Éditeur parce que je crois que c'est une des meilleures maisons d'édition de poésie et même. Enfin, c'est une des meilleures maisons d'édition et j'espérais pas être acceptée. C'était une très très bonne surprise pour moi. Et puis, ils m'ont proposé tout un travail sur le texte. Et en fait, ils ont pointé des différentes choses et qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Et tout, et donc voilà, ça a donné cette version, parce que préalablement, ce livre aurait dû être publié par un autre éditeur, enfin par l'éditeur que j'avais un peu avant, mais qui a eu de grandes difficultés et qui a renoncé au projet. Parce que, en fait, ce livre, j'ai eu l'idée de ce livre déjà en 2015. En 2019, j'ai obtenu une bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'écrire. Et en 2020, je l'ai proposé à mon éditeur qui est Créafis, qui est un éditeur aussi qui a beaucoup d'attaches dans la Drôme. C'est une maison que j'aime beaucoup aussi. Et Créafis, en fait, m'a un petit peu propulsée dans. M'a donné beaucoup de conseils. Et il me disait, bon, maintenant, il faut que tu écrives. Et je crois qu'ils aimaient beaucoup Pierre Godin, quoi. Et c'est surtout, j'ai eu affaire à Pierre Godin et Claire Reverchon. C'est eux qui ont lu mes livres et ils lisaient mes manuscrits aussi et me donnaient des conseils. Puis finalement, donc je leur ai soumis Je suis le mur. Ils étaient prêts à le publier, mais finalement, ils n'ont pas pu le faire. Et donc, ils m'ont autorisé à le proposer à chercher d'autres maisons. Et je savais pas vraiment vers quelle maison me tourner parce qu'il y a énormément de maisons de poésie, mais et puis voilà, j'ai tenté Chaîne et ils m'ont répondu très vite et j'étais surprise parce que quand la première fois qu'ils m'ont répondu, ils me demandaient surtout des ils me disaient pas qu'ils voulaient publier, mais ils me demandaient des un petit peu des renseignements, etc. Et puis, ils nous ont pointé des choses qui ne convenaient pas dans leur ligne éditoriale, et notamment les répétitions. Et du coup, j'ai revu tout le texte en fonction des choses qu'ils avaient repérées, quoi. J'ai tout réécrit et je leur ai renvoyé un deuxième... Je l'ai renvoyé une deuxième fois le texte. Et là, quelques semaines après, ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup et qu'ils allaient publier.
Il y a quelques jours, j'entendais dans une émission sur la poésie, notamment, parfois la poésie est faite pour être entendue, mais il y a aussi cet aspect graphique du mot, du texte, qui ont leur sens propre également. Où vous situez-vous dans cette expression de la poésie ? Est-ce que pour vous, elle peut être lue, mais aussi surtout entendue ?
Alors moi, j'aime beaucoup lire la poésie. D'ailleurs, ma poésie est très orale. Et souvent, en fait, je la fais toujours passer par ma voix avant de la fixer. Donc, j'écris. Et après, quand je cisèle, si on peut dire, je le fais de façon orale. C'est-à-dire qu'il faut que ça pulse, quoi. Il faut que ça marche. Le rythme je tiens beaucoup au rythme. Et aussi, j'ai travaillé avec des artistes. Donc, j'ai plusieurs livres d'artistes, donc où il y a un lien avec images et textes. Et j'aime beaucoup ça aussi. Mais moi-même, je pratique un petit peu les arts plastiques. Du coup, je suis sensible aussi à ça. Mais c'est vrai que dans l'urgence, dans mon urgence personnelle, je crois que c'est la voix qui compte. Et d'ailleurs, mes textes, c'est presque à chaque fois des voix.
Il y a ce texte avec des respirations, des silences marqués par des espacements. Comment prendre en compte ou l'éloquence de ce texte ?
Alors, c'est-à-dire comment représenter dans le livre la pensée, la voix. Alors là, il y a des espaces, il y a des lignes qui sont très longues et puis d'autres qui sont très très courtes. Il y a des successions qui sont très rapides. Et oui, il y a certaines pages qui sont presque vides, hein, où il y a quatre lignes. Et puis il y a d'autres pages qui sont très longues.
Mais est-ce que le silence pour vous est important et marque encore plus le
silence est primordial parce que c'est dans le silence que s'inscrit. En fait, ce qui est derrière, ce qui est porté par la poésie, par la pensée, mais qui n'est pas dit. Et ce silence, c'est très important parce que c'est là-dedans que l'auditeur ou le lecteur va inscrire sa propre expérience. Et quand ce qui est dit fait écho à quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, donc il reçoit. Et ben, c'est là que ça, c'est là dans ces interstices, ces silences que ça s'inscrit. Et que ça, il faut pas que ça soit écrire tout d'un bloc, parce qu'il faut laisser le temps à l'auditeur. Il faut laisser du temps pour les personnes qui reçoivent le texte, parce que en fait, la poésie, c'est pas uniquement le poète qui la crée. La poésie, c'est quand il y a une sorte de communauté qui se crée entre celui qui lit et celui qui écoute. Et c'est ça le... Moi, je sais que quand il y a des passages très forts et que les personnes sont... L'écoute est très profonde, je le sens parce que le silence de la salle devient très, très profond.
Il y a une communion à ce moment-là ?
Oui, c'est une sorte de... Oui, on sent qu'on fait communauté, quoi, qu'on est ensemble quelque part, qu'on va quelque part.
Ces paroles, ces voix, donc, par ces silences, ces espacements, amènent justement donc, cet imaginaire propre à chacun.
Oui, ça amène à éveil. Oui, je pense que la poésie éveille l'imaginaire de tout un chacun. Et puis, il y a certaines personnes qui me disent « Mais moi, je comprends rien à la poésie. » Mais en fait, c'est pas une question de compréhension. Il faut se laisser aller. Et puis, c'est le corps qui prend ce qu'il a à prendre. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
La poésie fut un temps et côtoyait un peu les pouvoirs, notamment en France, il y a quelques siècles. Hein, il y avait le siècle des Lumières. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu. On peut ressentir une certaine inculture des gens de pouvoir actuellement. Est-ce que pour vous, c'est dommageable ?
Oh, je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, pour moi, la poésie, elle doit rester... Elle appartient à chacun, c'est une affaire presque intime. Donc le pouvoir, à la limite, ça me dérange pas que la poésie soit absente du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit présente dans chacune et chacun de nous. Et c'est ça la force, parce qu'elle peut le faire. Parce que c'est ça la force de la poésie, c'est qu'elle se fiche du pouvoir. C'est pour ça que ceux qui me disent qu'ils comprennent rien à la poésie, je crois qu'il faut qu'ils se repenchent sur eux-mêmes, qu'ils essayent d'accepter de pas comprendre et petit à petit on s'habitue au langage, je pense. Petit à petit, on s'habitue à entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis après, ça fait écho à des choses. De notre expérience, des choses de l'actualité. Benoît, il veut me poser la question, une question par rapport à l'aspect politique de ce livre. Et je trouve que c'est une belle question parce que, oui, il y a un aspect politique, mais pas un aspect militant. Parce qu'à partir du moment où la poésie elle est militante, c'est-à-dire qu'on veut, convaincre avec la poésie, je crois qu'on biaise, on la biaise. Moi, je pense que la poésie, ça reste un questionnement. Et il faut que ce questionnement touche. Mais c'est le questionnement qui permet d'éveiller la tête. C'est politique dans le sens où ça apporte un questionnement un peu décalé, un peu... Ça touche un questionnement qui va toucher l'intime, la propre personne, ce qu'on peut faire chacun à notre niveau. Mais moi, je ne suis pas pour une poésie qui harangue les foules, qui... Non, je crois que ce n'est pas ça son rôle.
Nous allons écouter un dernier extrait.
Je reprends un petit extrait. C'est encore le mur qui parle. Je suis le mur. Je leur dis, dans mes pierres branlantes, ils ont foré des trous, coulé du béton. Fixer des pieux, des pitons et des amarres, agrafer des grilles, clouer du fil barbelé à lame. Ils ont posé des hérissons, des coupes-gorges, des herses et des miradors, installé des sirènes, des caméras, des projecteurs aveuglants, des postes de tir et instauré des rondes de soldats. Les grilles sont hermétiques. D'un côté, on joue fébrilement au casino en ruminant des vétos. Et de l'autre, on attend, on meurt d'attendre une hypothétique issue. On regarde le temps, une brèche à ouvrir, entre le givre et la brume, la chair du paysage et l'espérance des uns sur laquelle d'autres s'assoient. Le paysage est clos, rien n'arrête pourtant les contrebandiers. Ils savonnent des rampes. Catapulte des mules. À mon pied, l'homme égaré poursuit son tour. le chien tantôt le précède, tantôt le suit. Dans la glèbe, il flaire parfois des silences et les retourne. Au fond de la tranchée qui a tué la route, à l'intersection, gît un petit crâne entre les pierres. Parmi d'autres, intrigué, l'homme égaré se penche et le prend dans ses bras. Choses, machines et personnes hallucinent devant l'écran. Elles se mettent à crier. Elle crie un nom pour l'enfant. Elle crie un nom pour l'enfant. Elle crie à tout va un nom pour l'enfant. Elle montre l'enfant. Elles disent « On le reconnaît, ce petit crâne ?» Elle transfère la photo de l'enfant. Elle transfère la photo de l'enfant. Elle partage l'enfant. Elles disent « Un petit enfant à bouchon sur le sable, tout mouillé, à fleur d'eau. On dirait qu'il dort dans les alluvions. » Elle crie « Petit dormeur du sable !» elle crie « Petit dormeur du sable !» L'homme égaré berce le petit crâne en fredonnant une ritournelle. Le chien reste au pied et bat de la queue.
Merci Elisabeth pour cette lecture. Et donc, comme je l'indiquais en début d'émission, on pourra vous entendre de nouveau ce samedi 7 mars à la librairie Mosaïque à 18h, rue Camille Buffardel. Et avec, dans ce cadre du printemps des poètes, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.